Bonsoir. Dans sa circulaire du 20 avril 2015, le Premier ministre a signifié aux membres du gouvernement que toutes les dépenses autres que celles liées aux rémunérations et fonctionnement doivent être soumises à son appréciation. Pour le gouvernement, il est question de mobiliser des moyens nécessaires afin de faire face aux impératifs de mise en place et d'installation de nouvelles structures et entités ainsi qu'aux échéances politiques à venir. Quelle lecture faire de cette décision du Premier ministre? C'est le thème que nous vous proposons ce soir. Et pour en parler, je reçois professeur Vincent Ngonga, directeur de cabinet adjoint du Premier ministre en charge des questions économiques, financières et de développement. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Honorable Jean-Marie Bampouriki, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national cadre de l'UNC, parti de l'opposition. Israël Moutala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et analyste politique et économique. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à tous dans votre émission.
Adieu. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Toutes les dépenses autres que celles liées aux rémunérations et fonctionnement doivent être soumises à l'appréciation du Premier ministre. Cette décision du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, adressée aux membres du gouvernement, est contenue dans sa lettre du 20 avril 2015. Nadine Foulan-Simba l'a lue pour nous.
Selon cette lettre, il ressort clairement que cette décision est consécutive aux évolutions récentes de l'économie mondiale ainsi que certains facteurs conjoncturels endogènes qui, selon les chefs du gouvernement, ont entraîné une baisse sensible des recettes. De manière claire, les membres du gouvernement sont interdits d'engager toutes les dépenses non prises en compte dans le budget de fonctionnement de leur cabinet respectif, sauf en cas d'autorisation expresse du Premier ministre. Pour le gouvernement, il est question de mobiliser des moyens nécessaires afin de faire face aux impératifs de mise en place et d'installation de nouvelles structures et entités, ainsi qu'aux échéances politiques à venir. Selon le compte-rendu de la Troïka stratégique du 20 avril dernier, le solde des opérations financières de l'État au 17 avril 2015 est déficitaire. Ces niveaux de déficit se justifient essentiellement par la paye et les transferts aux provinces exécutés respectivement à 91% et 106%. En attendant le probable rééquilibrage budgétaire, le Premier ministre recommande au ministre d'État, ministre du Budget et le ministre des Finances de veiller dans l'exercice de leurs prérogatives en matière d'exécution des dépenses au respect de ces directives.
Merci Nadine Foulan-Simba. Professeur Vincent Ngonga, vous êtes directeur de cabinet adjoint du Premier ministre en charge des questions économiques, financières et de développement. Professeur, comment ou qu'est-ce qui motive cette décision du Premier ministre?
Bien, merci. La décision du Premier ministre a été motivée surtout par les chocs exogènes défavorables que subissent pas seulement l'économie, mais les autres économies, à la suite surtout de deux événements. Il y a d'abord la chute brutale du cours du pétrole et nous ajouterons aussi la chute du cours du cuivre. Je peux donner quelques illustrations pour présenter l'ampleur de la situation. À fin décembre 2013, le cours du pétrole, donc les barils du pétrole, étaient à 110 $. Fin décembre 2013. Fin décembre 2014, le baril est passé à 65 $. Et enfin, quand on a commencé l'année 2015, en janvier, c'était environ 41 $ le baril. Aujourd'hui, on essaie de se stabiliser à 63 $. Vous remarquez déjà qu'il y a une chute brutale qui implique aussi qu'il y ait une baisse des recettes pétrolières principalement. De l'autre côté, pour le cours du cuivre, nous étions à environ 7 800 $ la tonne. Décembre 2013, passé à décembre 2014, nous sommes tombés à 6 500 $ la tonne et maintenant nous sommes à environ 5 500 $ la tonne. Donc ces deux effets conjugués ont eu comme conséquence, c'est que quand vous considérez les recettes qui ont été votées au niveau du Parlement, vous les rapprochez aux réalisations des recettes. Vous remarquez qu'il y a déjà des manques à gagner qui ne sont pas juste là très très importants, mais ce sont des manques à gagner quand même appréciable.
Alors, professeur, donc, quels sont les facteurs endogènes? Parce que là, vous avez cité des facteurs exogènes.
Bien. En ce qui concerne les facteurs endogènes, c'est d'abord, un, les problèmes de certaines réformes qui devraient être accélérées avec, entre autres, la disponibilité en matière d'électricité, mais qui... Nous avons des problèmes, vous le savez, avec la chute du niveau, disons, du niveau de l'eau, avec ce que nous connaissons du côté d'Inga, entre autres.
L'étiage.
Oui, l'étiage. Donc, qui fait que, finalement, ce que nous avons prévu en termes d'augmentation des dessertes en matière d'électricité ne suit pas. Et c'est ce qui préoccupe encore davantage le secteur minier, surtout au niveau du Katanga. Et cela implique que le gouvernement, par rapport, par exemple, aux prévisions en termes d'impôts, droits ou taxes que devaient payer les miniers, il faudrait reconsidérer certains niveaux. Donc là, c'est le choc endogène le plus important que nous connaissions ces jours.
Alors, en termes simples, professeur, quelles sont les décisions que devraient ou pas prendre les ministres concrètement?
Bien, je serai vraiment très simple pour expliquer. Donc, quand vous lisez la directive, ils disent que hormis les dépenses de rémunération, parce que avec les dépenses de rémunération, vous ne pouvez pas dire ah non, parce qu'il y a maintenant chute brutale du coût du pétrole, écoutez, nous allons aussi baisser vos rémunérations, parce que les dépenses de rémunération, les rémunérations, ce sont des droits acquis. Donc, hormis les dépenses de rémunération et les dépenses de fonctionnement qui sont liées spécifiquement à l'activité des ministères, les autres dépenses telles que les dépenses liées aux déplacements, aux missions, à l'organisation des forums, des séminaires, ces dépenses devraient requérir préalablement le quitus du Premier ministre. Donc là, nous sommes plus en termes de gestion de la trésorerie. Donc, parce que c'est la trésorerie qui a été affectée par les chocs exogènes et les chocs endogènes que je viens de relever là.
Peut-on dire, professeur, qu'à travers cette situation, on peut conclure que jusqu'à une période très récente, le gouvernement avait un train de vie très élevé?
Train de vie très élevé, c'est trop dire. Donc tout dépend, comme j'ai dit, du niveau des recettes que vous collectez. Parce que vous savez que si nous sommes arrivés aujourd'hui à vaincre l'hyperinflation, à vaincre la dépréciation accélérée de la monnaie, c'est parce qu'aujourd'hui, le gouvernement s'astreint à une discipline qui veut que ce sont les recettes qui déterminent les dépenses. Donc, si aujourd'hui, ce sont des mesures d'encadrement, pour ne pas dire des restrictions, si aujourd'hui, le cours, par exemple, du pétrole qui commence à se stabiliser, s'il commençait à se relever, que cela a un effet aussi sur les recettes pétrolières. Bien sûr.
Certaines mesures pourraient être
voilà,
levées.
Voilà, pourraient être levées.
Voilà. Honorable Bamporiki, vous êtes député national, cadre de l'UNC, parti de l'opposition. Comment vous analysez cette décision du Premier ministre?
Bon, je commençais par dire que je suis étonné que ce débat commence dans les médias, alors que c'est un débat hautement important pour la vie de la nation et qui a un cadre légal où il doit se tenir. Ça, c'est un débat qui devait commencer au niveau de l'autorité budgétaire.
Au Parlement, donc.
Qui est le Parlement. Lorsque le gouvernement se rend compte qu'il n'est pas en mesure d'atteindre le niveau des assignations des recettes budgétaires pour des raisons comme celles que le professeur a évoquées. Mais la loi prévoit qu'il se rende au Parlement avec une loi de finances rectificative. Donc, je suis vraiment étonné de voir que le gouvernement fait un saut en avant et commence par des notes circulaires à l'attention des ministres. Et puis, une autre chose. Nous avons déjà eu à dénoncer plusieurs fois que il y a une très grande différence dans notre pays entre la théorie pour la gestion du pays et la pratique. La théorie veut que le gouvernement gère en fonction du budget. Donc le gouvernement ne peut dépenser que ce qui est prévu au budget. Mais nous constatons que dans la pratique, le gouvernement ignore le budget. Nous avons des dépenses que le gouvernement effectue, et non les moindres, qui ne sont inscrites nulle part au budget. Je prends, ça va vous étonner, comme exemple, le cas du parc agro-industriel de Bukangalonzo, 83 millions de dollars. Nulle part, cette dépense n'a jamais été prévue au budget. Et donc, ça veut dire que c'est une dépense qui n'est pas autorisée par l'autorité budgétaire, et donc illégale. Alors, et puis, je suis étonné de constater que le prof nous annonce un déficit de trésorerie. Pourtant, nous sommes censés être dans un système de gestion à base caisse. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je dois le souligner, la Banque centrale, le prof est un ancien au cadre de la Banque centrale, la loi portant statut de la Banque centrale interdit à cette dernière, je dis bien interdit à cette dernière, de faire des avances à l'État. Donc, normalement, l'État ne peut pas se trouver en position de déficit. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a une grande, il y a un grand écart entre l'État théorique tel qu'il doit fonctionner et l'État effectif tel qu'il fonctionne.
Et donc, en d'autres termes, pour vous, la gestion n'a toujours pas été aussi orthodoxe qu'elle est présentée.
Pas du tout, pas du tout, et nous avons eu à le dénoncer au niveau de l'Assemblée nationale. C'est par exemple le fait que, alors que les textes, notamment la Convention des caissiers de l'État, dit que la Banque centrale tient un compte de l'État unique, mais la Banque centrale a déjà neutralisé le compte unique et à la place, on a mis des comptes, plusieurs comptes de l'État, dont un seul est sous le pouvoir du ministre des Finances. Et c'est pour cette raison que il y a des dépenses qui sont effectuées sans passer par le ministre des Finances, donc sans passer par la chaîne de la dépense. Et c'est comme ça que chaque fois que le gouvernement a à faire la reddition des comptes, il y a toujours des problèmes. Depuis 2012, la Cour des comptes n'a jamais émis une déclaration de conformité sur les comptes présentés par le gouvernement. Donc, en d'autres termes, la Cour des comptes a toujours rejeté les comptes du gouvernement depuis 2012.
Alors, honorable, pour vous, qu'est-ce que cette phrase signifie quand le gouvernement dit qu'il est question de mobiliser des moyens nécessaires afin de faire face aux impératifs de mise en place et d'installation des nouvelles structures et entités ainsi qu'aux échéances politiques à venir?
Là, je suis vraiment écœuré, estomaqué, parce que ces tâches-là font partie du programme sur base duquel le gouvernement a été investi en 2012. Mais il y a lieu de se demander, depuis 2012, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour ces objectifs-là? Qu'est-ce que le gouvernement qui savait que de 2012 à 2016, il doit y avoir des coupages, il doit y avoir de nouvelles provinces? Qu'est-ce que le gouvernement a fait en termes de construction des bâtiments qui devaient recevoir les nouveaux services? En termes d'élections, c'est depuis 2012 qu'on sait qu'en 2016, on doit aller aux élections. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Par contre, je dois vous dire que dans les divers budgets de l'État, pour les élections par exemple, il a toujours été prévu des crédits importants pour la CENI, mais le gouvernement n'en a jamais décaissé plus de 15%.
Merci honorable. Israël Moutala, vous êtes journaliste et analyste politique et économique. Vous avez suivi le professeur Vincent Ngonga et l'honorable Bamporiki. Quelle est votre analyse?
Mon analyse, la première, c'est que la lettre du premier ministre souffre d'une faiblesse fondamentale. Elle ne nous dit pas combien est-ce que les mesures qu'il a prévues pour économiser de l'argent va justement dégager comme ressource. C'est ça la faiblesse, parce que pour que nous fassions un débat sérieux, il faudrait que le Premier ministre qui maîtrise le chiffre, qui maîtrise tout l'appareil de l'État, nous dise absolument que en faisant de telles économies, voilà ce que je veux avoir comme argent. Je vais dégager 100 millions d'économies, 200 millions d'économies, 300 millions de dollars d'économies. Comme ça, nous avons une même lecture. Nous pouvons nous projeter dans l'avenir qu'avec 100 millions d'économies dégagées par les mesures du Premier ministre, on peut entrevoir telle ou telle autre action. Ça, le Premier ministre ne l'a pas dit. Donc justement, nous devons avoir cette culture de chiffres. Ça veut dire que quand le Premier ministre prend une telle directive, il doit justement nous donner de chiffres pour étayer justement ces mesures de budgétaires. Une autre appréciation par rapport à ça, c'est que je comprends pas un peu quelle est la mission du Premier ministre. Ici, je vois que le Premier ministre devient maintenant là en même temps ministre de Finances et ministre du Budget. Selon mon entendement, le Premier ministre, il a trois missions principales. Ça veut dire qu'il définit la politique nationale avec le chef de l'État, il la met en œuvre, donc il a une action d'impulsion et de coordination. Donc, en disant que toutes les autres dépenses, autres que celles des rémunérations et des fonctionnements, doivent lui être soumises pour aval préalable, ça veut dire qu'il est en même temps le patron des finances, il est en même temps le patron de budget. En matière administrative, ce n'est pas le principe de qui peut le plus peut le moins. Non, les compétences sont strictes. Donc ici, c'est une compétence qui est dévolue au ministre des Finances, au ministre du Budget.
Mais donc, n'a-t-il pas le droit de regard en tant que chef du gouvernement?
Justement, il a la coordination, mais pas l'aval préalable. Voilà, c'est ça le problème. C'est une question d'aval préalable. Ici, nous retombons un peu dans le cas qu'avait connu l'ex-premier ministre Mouzitu. Vous vous souvenez, à une époque, lui aussi, on avait dit que toutes les dépenses du premier ministre Mouzitu devaient être avoir le quitus du directeur du cabinet du chef de l'État de l'époque, Adolphe Loumanou. Donc, nous sommes un peu dans ce mélange de genres qui sont pas très clairs. Voilà à peu près ce que je peux dire sur cette lettre.
Et donc, pour vous, Israël Moutala, il y a plus de confusion que d'éclairage?
Non, il y a plus de confusion que d'éclairage. Parce que même quand on nous dit aujourd'hui que il y a un problème conjoncturel sur le plan national et sur le plan international. Bon, sur le plan international, le Dirk Kaba du Premier ministre a parlé justement de la chute du cours de pétrole et du cours de cuivre. Mais je pense que dans les prévisions justement, quand on a un taux moyen. Et jusque là, je pense que le cuivre est plus ou moins au taux moyen, il est à 5500. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une prévision budgétaire avec un cours de cuivre si haut. Donc on a un taux moyen. Même pour le baril du pétrole, on ne peut pas faire justement de prévision budgétaire sur un baril à plus de 100 dollars. Donc on a un cours moyen en principe, c'est pour être prudent dans les prévisions budgétaires. Et même ici justement, que le gouvernement nous dise qu'est-ce qu'il a perdu justement en baissant à la pompe. J'avais dit l'autre fois que nous ne pouvons pas qu'on nous permette le luxe justement de baisser justement le prix du carburant à la pompe. Que justement, c'est parce que c'était pour éviter justement les chocs exogènes. Donc nous avons une trésorerie qui est très faible, nous n'avons pas assez de réserves, nous n'avons pas assez de ressources financières. Il faut absolument ne pas trop faire de cadeaux fiscaux. Donc il faut être serein. Alors là-dessus, avec un cours de pétrole autour de 60 dollars, ça montre aussi que la facture que les Congolais payent pour acheter du carburant a baissé. Et donc, mais si on avait maintenu le même niveau de taxation, peut-être qu'on aurait gardé des ressources supplémentaires pour financer des projets plus importants.
Mais le Premier ministre n'a-t-il pas raison, en suivant l'explication du professeur Ngonga, par exemple, quand il évoque des facteurs endogènes tels que le problème d'électricité qu'il a évoqué tout à l'heure?
Non, le problème de l'électricité, c'est un problème
qui dérange le secteur minier notamment.
Oui, mais c'est un problème justement, il faut des solutions structurelles. Il faut des solutions structurelles. Et jusque-là, au problème d'électricité, la plus grande réponse structurelle, c'est la réhabilitation de quelques groupes, Inga 3 et tout ça, Inga 3 qui est sans cesse reporté. Et donc, et vous pensez qu'avec les économies qu'on va dégager, parce qu'on ne dit pas que les économies seront de quel ordre, est-ce qu'on va solutionner ce problème de courant? Je ne pense pas. qu'on nous dise justement pour solutionner de manière durable le problème de courant, on a besoin d'une enveloppe par exemple de 10 milliards. Alors les économies que nous faisons aujourd'hui vont contribuer dans quelle proportion justement à résoudre cette question? Mais je suis quand même d'accord avec le Premier ministre sur certains plans. Il y a beaucoup d'abus aussi dans le chef de certains ministres. J'ai vu certains ordres de mission recalés parce qu'il y avait du clientélisme. Il y avait deux ou trois noms de famille semblables, il y avait un cousin, il y avait une tante, il y avait une nièce. Bref, beaucoup de ministres veulent aussi s'amuser avec l'argent de l'État, avec des missions de complaisance.
Il y a un problème de discipline.
Il y a un problème de discipline, et là c'est sûr. Parce que avoir la façon dont certains cabinets ont été composés, avoir les sollicitations des ordres de mission, avoir les sollicitations de certains séminaires, il y a beaucoup de complaisance. Et donc là, de ce côté-là aussi, je pense que le Premier ministre n'a pas totalement tort.
Professeur Vincent Ngonga, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lodja.
Blaise Osongo, Lodja. À travers cette mesure, le Premier ministre s'est-il rendu compte qu'il a raté une bonne occasion de n'autoriser que des dépenses utiles ou tout simplement, il se prépare à annoncer que les fonds nécessaires pour l'installation de nouvelles provinces sont soit insuffisants, soit inexistants, car son collègue de l'intérieur a parlé de juin.
Réaction, professeur Ngonga.
Bien, merci beaucoup. Je commencerai par réagir aux préoccupations soulevées par l'honorable député, et puis je réagirai aussi aux observations du journaliste et puis de notre éminable auditeur ou compatriote. Je commencerai par une précision détail. Nous avons jusque-là dégagé un déficit, mais ce déficit se couvre des 20 premiers mois d'avril. Mais jusqu'aux 3 premiers mois de cette année, nous avions dégagé ce qu'on appelle des marges de trésorerie d'environ 200 milliards. Donc c'est à partir de ces marges que le déficit a été financé. Donc il n'y a pas recours à la Banque centrale. Donc depuis que
le gouvernement est là, on est dans le bon.
On est dans le bon. Donc le gouvernement a toujours des marges de trésorerie. Et c'est sur base de ces marges de trésorerie que sont financés les déficits. Vraiment, ça, c'est une explication de détail. Donc nous, le gouvernement veille toujours à ce que les marges de trésorerie financent les déficits ponctuels. Donc il n'y a pas recours à la Banque centrale. Ça, c'est une précision que je voudrais donner.
Alors, l'honorable a aussi évoqué le fait que le débat commence dans les médias au lieu qu'il ne commence au Parlement.
Eh bien, l'honorable, sa préoccupation est fondée, mais aussi le public aussi peut se poser des questions. Il a parlé des lois rectificatives, des collectifs budgétaires. Je commencerai pour répondre aussi à notre collègue, à notre ami le journaliste, donner quelques chiffres pour que vous compreniez qu'on peut arriver, si on se rend compte que le manque à gagner continue à augmenter, envisager maintenant la demande de la loi rectificative ou chercher à déposer un collectif budgétaire au niveau du Parlement. À ce jour, donc aux 4 premiers mois de l'année, il a été prévu que nous mobilisions 1 400 milliards des recettes. Mais maintenant, quelle est la situation en réalisation? Donc, ce que nous avons mobilisé effectivement, ce que le gouvernement a mobilisé effectivement, c'est 1 250 milliards. Quand vous faites 1 400 milliards moins 1 250 milliards, vous trouvez un manque à gagner de 150 milliards environ. Donc j'arrondis, environ. Alors, ces manques à gagner proviennent de quelles sources de recettes? Il y a d'abord la DGDA. Il a été prévu 647 milliards aux 4 premiers mois. Ils sont à 562 milliards. Il y a la DGI. Il a été prévu aux 4 premiers mois qu'il mobilise en prévision 472 milliards. Ils sont à 350 milliards.
Alors, sans qu'on ne se perde dans les chiffres pour les auditeurs qui nous suivent et qui ne sont pas tous économistes, Blaise Osongo, dont nous avons suivi la réaction tout à l'heure, se demande, est-ce qu'on le Premier ministre gouverne à vue, l'honorable en a parlé, on savait qu'en 2016, il y aurait telle élection, il y aurait les locales, il y aurait, tout cela n'a-t-il pas été prévu?
Non, j'allais y arriver. Par rapport à notre compatriote Osongo, non, en réalité, Les dépenses, ce n'est pas un pilotage à vue, mais c'est une gestion prudente de la trésorerie. Quand vous voyez déjà qu'il y a des chocs imprévus d'une telle ampleur, vous devez faire un redéploiement déjà au niveau de la trésorerie. Au niveau de la trésorerie. Bien, alors pour ce qui concerne les dépenses par rapport aux échéances politiques et par rapport au découpage du pays, non, ces dépenses-là sont toujours privilégiées. Donc, hormis les dépenses de rémunération, ces dépenses sont privilégiées. Ce qui est en train d'être fait, c'est un redéploiement au niveau de la trésorerie, de manière à faire en sorte que ces dépenses, qui sont les dépenses prioritaires à impératif politique, soient toujours couvertes. En ce compris, bien sûr, les dépenses de rémunération et les autres dépenses qui ont un impact certain sur la croissance.
Merci, prof. Honorable Bampori, qui a pour vous cette réaction qui nous vient de Kalemi?
Kahiri Matembera, j'appelle à partir de Kalemi. J'encourage le Premier ministre dans le souci de voir les nouvelles entités installées, mais je pense qu'il a glissé sur le chemin vers la solution durable qui est la lutte contre la fraude, la corruption, les détournements ainsi que la transparence dans la gestion du trésor public.
Honorable Bampori, le Premier ministre n'a-t-il pas raison, comme disait Israël Moutala, de mettre fin à l'indiscipline de certains ministres à travers cette mesure?
Je ne sais pas ce que veut dire indiscipline de certains ministres. Les ministres n'ont d'argent que ce qu'on leur donne. Les ministres n'ont pas de caisse autonome qu'ils gèrent. Tout ce qu'ils ont leur vient du trésor public. Alors d'où proviendrait l'indiscipline? Ils n'ont pas de pouvoir illimité sur la trésorerie de l'État. Donc, je n'y comprends rien du tout.
Alors, le professeur a donné un certain nombre de réponses à un certain nombre de questions qui ont été évoquées ici. Êtes-vous plus ou moins satisfait?
Je ne suis vraiment pas satisfait, je regrette. Vous savez, quand on dit que il y a des marges de trésorerie qui sont là pour financer les déficits. Bon, moi, lui et moi, nous sommes des techniciens. Quand on dit que l'État ne doit avoir qu'un compte, un seul, alors comment ce compte-là peut cacher des marges de trésorerie et afficher des déficits d'autre part? Non, c'est contradictoire. C'est-à-dire, quand le gouvernement dit qu'il a un déficit, alors de deux choses l'une. Soit, effectivement, le gouvernement confirme qu'il entretient plusieurs comptes de l'État, ce qui est une chose innommable dans un État, ou soit alors, le gouvernement reconnaît qu'il est effectivement en déficit et qu'il a utilisé des avances de la Banque centrale. Ce qui est aussi extrêmement grave. Donc, je ne sais pas comment on peut trancher cette question sur le plan technique.
Alors, vous avez dénoncé la gouvernance à vue. Le professeur Ngonga vous oppose, lui, la gestion prudente.
Mais nous sommes en train de parler des choses très simples. Nous sommes dans le programme du gouvernement depuis 2012. C'est un programme 2012 à 2016. J'ai bien dit que, et la question du découpage, et la question des élections, font partie du programme du gouvernement qui est actuellement en cours. Et ce programme se traduit en termes de budget chaque année. Et je vous confirme, en ce qui concerne les élections, parce que je suis membre de la commission ECOFIN, que chaque année depuis 2012, nous avons toujours prévu des crédits pour la CENI, pour les élections donc. Et je vous dis qu'à ce jour, donc jusqu'au premier trimestre 2015, quand vous totalisez ce que nous avons prévu, par rapport à ce que le gouvernement a décaissé pour la CENI, c'est 15%. Par contre, quand vous prenez le budget prévu, par exemple, pour la présidence de la République ou pour la primature, par rapport à ce qui est décaissé, c'est au-delà de 100%. Alors, entre nous, comment on peut, est-ce qu'on peut parler de gestion prudente, en ces termes?
Honorable, il y a Désiré Kiakwa qui nous écrit de Goma qui dit, ne serait-il pas plus victorieux si cette méthode était en application plus tôt? Nous devons diminuer nos dépenses afin de satisfaire les besoins de base.
Diminuer nos dépenses?
Afin de satisfaire les besoins de base.
Je ne sais pas ce qu'il a comme préoccupation. Qui doit diminuer les dépenses? C'est le problème. On est déjà très mal loti comme ça avec un budget qui n'est pas à la hauteur de ce que nous avons comme potentialité. Mais diminuer encore les dépenses pour disparaître.
Israël Moutala, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Kikiza Kulimoche Evariste depuis la ville de Bukavu. Cette décision du Premier ministre est noble en ce sens qu'il vise à lutter contre le détournement des fonds. Cependant, il semble ne pas mener la même lutte au niveau des services de mobilisation des recettes où la fuite est plus importante. Ceci limite la chance de réussir à cette énième décision du Premier ministre.
Réaction Israël.
Bon, sur cette question, je dirais que pour lutter efficacement contre les détournements de deniers publics, il n'y a pas 36 solutions. Donc, il suffit que d'avoir un appareil judiciaire efficace. Et je pense que depuis de longues années, notre appareil judiciaire est inefficace, est inopérant, est corrompu, est à la botte des politiques. Donc, il n'assume pas son rôle de repression et de moralisation de la vie publique. Donc là-dessus, je ne pense pas qu'une circulaire, une directive du Premier ministre peut résoudre la question de détournement, qu'il y a eu un problème politique, un problème moral qui se pose dans tous les secteurs de la vie. Donc je pense que le solutionnement de cette question de manière durable passera par l'indépendance et l'efficacité de la justice.
Alors, il y a aussi des préoccupations que vous avez soulevées tout à l'heure, auxquelles le professeur a répondu. Êtes-vous satisfait également?
Non, je ne suis pas totalement satisfait, parce que le problème, c'est une question de chiffres. Nous avons un processus électoral qui nous demande à peu près 1,3 milliard de dollars. Nous avons un processus de découpage qui nous demande à peu près aussi 400 millions de dollars. Donc, il faut aller chercher à peu près dans les 2 milliards de dollars. C'est ce que donc les tribunes du Premier ministre Mouzitou l'ont démontré noir sur blanc, que pour faire le découpage de manière optimale, de manière efficiente, il nous faudrait beaucoup d'argent. Donc à peu près pour tous ces deux processus, et élections et découpage, donc moi je vais globalement chercher ça dans le 2 milliards. Alors, les ressources propres du gouvernement, la cible, c'est à peu près 5 milliards. Et je ne suis pas sûr qu'on atteigne cette cible en ressources propres. Donc, je pense que les DGDA, DGI, comme le disait le dire Kaba, avec tous ces déficits en termes d'assignation, s'ils n'arrivent pas, il y a des gaps. Donc, je pense que notre cible, on va atteindre peut-être 4 milliards 5. Donc voilà. Alors sur le 4,5 milliards de ressources propres, comment est-ce qu'on dégage les 2 milliards pour financer les élections et pour financer le découpage, l'installation de nouvelles institutions? Donc voilà la problématique, sans justement sacrifier les dépenses d'investissement, sans sacrifier les fonctionnements de l'État et tout ça. Donc nous sommes encore dans un problème. Le directeur de cabinet a parlé de redéploiement au niveau de la trésorerie. Donc c'est son problème. Quand il parle de redéploiement, c'est un terme technique, mais ça veut dire que c'est une surconsommation à gauche et une sous-consommation à droite. Ce sont des délocalisations des crédits. Donc c'est encore un désordre, parce que, comme l'a si bien dit l'honorable Bamporiki, le gouvernement doit travailler à partir d'un programme. C'est un programme cyclique, c'est le PAP, le programme d'action prioritaire, qui avait une cible comme budget, 50 milliards. Donc nous sommes justement à plus de la moitié de ce quinquennat, donc en 3 ans, en 4 à peu près. Donc je ne pense pas qu'on a atteint la moitié de cette cible-là. Et donc tout ça montre que la planification n'était pas rigoureuse. Et donc aujourd'hui, nous subissons justement les conséquences de cette mauvaise planification.
Alors partant de tous ces éléments que vous évoquez, devrions-nous avoir des inquiétudes, Israël Moutala, par rapport au processus électoral, par rapport au découpage?
Non, par rapport au découpage, c'est clair. Par rapport au processus électoral, c'est clair. Parce que jusque-là, le gouvernement, ni la CENI, ne sont en mesure de nous dire quelle est la ventilation justement de ce 1,4 milliard que la CENI a prévu. Comment est-ce qu'on sont les ventiles, quel est le plan de décaissement. On a du mal à suivre justement le financement du processus. Un agent de la CNI m'a dit qu'ils ont des arriérés de salaire. Le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre a parlé ici que pour les salaires et les rémunérations des ministres, c'est des droits acquis. Mais les agents de la CNI aussi, c'est des droits acquis. Mais leurs droits acquis sont moins respectés que ceux des autres. Donc, voyons, soyons rigoureux. Si on est rigoureux en mettant les droits acquis des membres du gouvernement, maintenant aussi ceux des agents de la CENI qui ont quelques mois d'impayement. Donc nous voyons que pour faire fonctionner même la machine électorale en termes de rémunération du personnel, on a du mal. Donc maintenant, il faudrait maintenant avoir assez de liquidités pour commander le matériel et déployer toutes les opérations. Je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
Merci Israël Moutala. Nous recevons dans ce studio Berry Loutiaka pour les réactions des auditeurs. Bonsoir Berry.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous.
Alors nous commençons par cette réaction de Kinshasa avec Nathan Kalonga Goudla.
Il dit: j'apprécie la décision du Premier ministre car celle-ci permet au ministre d'éviter certaines dépenses imprévues, car dans cette période électorale il faut beaucoup d'entrées et peu de sorti pour organiser des élections.
Allons à Bukavu avec la réaction de David Kibirikilisha. Voilà.
Oui, il dit que cette décision prouve le désordre qui règne dans le gouvernement Matata. Sinon, ça se ferait juste à l'entrée de ce dernier. À mon avis, dit-il, il devrait laisser l'autonomie à chaque ministre pour une harmonie.
Didier Serge Moussanga, cet internaute, nous dit quoi, Berry?
Il dit: pourquoi les bonnes choses arrivent avec retard? N'est-ce pas une décision précédée par des détournements, abus constatés? Sinon, qu'est-ce qui motive le Premier ministre de plus? Si dans le passé, il y a eu des dépenses de prestige, je pense que les coupables doivent être poursuivis.
Terminons par cette réaction de Jimmy Nzoki.
Oui, il dit: mais pourquoi, c'est sa question, mais pourquoi ces décisions viennent-elles aujourd'hui? Car ça aurait dû l'être depuis le début de l'année, voire l'an passé, parce que le problème d'installation de nouvelles provinces n'est pas un imprévu. C'est une décision tardive.
Merci Berry. Professeur Vincent Gonga, il y a Kadi. Cet internaute qui dit: cela montre que le découpage n'a pas été prévu dans le budget et que la gouvernance du pays est chaotique, une gouvernance à vue, donc l'avenir du pays est hypothétique. Réaction, professeur.
Merci beaucoup. Je vais apporter encore plusieurs précisions. D'abord, je commence par mon ami le journaliste. D'abord, les dépenses électorales sont étalées sur deux exercices, 2015-2016. Donc lui, dans son intervention, c'est comme si toutes ces dépenses seront réalisées ou seront exécutées en 2015. Non, c'est étalé sur deux exercices. On se comprend très très bien. Dans tous les calculs qu'il a fait là, dans toutes les démonstrations, il y a cet élément fondamental qu'il n'a pas pris en compte. Donc c'est sur deux exercices. Et vous savez quel est le budget global du pays. Donc ces dépenses peuvent être effectivement prise en compte. Et il faudrait tenir compte aussi des marges budgétaires antérieures. Nous avons environ des marges budgétaires d'environ 300 milliards. Donc il faudrait dans vos calculs en tenir compte. Encore une précision, vous parlez de délocalisation des crédits. Non, 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 non. Ici nous sommes au niveau de la trésorerie. Les crédits budgétaires qui sont alloués au ministère, votés au niveau du Parlement, ce sont des plafonds, ce sont des maxima. L'honorable député est là. Quand il y a un problème de trésorerie, prenons qu'un crédit a été prévu pour 100 millions, mais il y a un problème de trésorerie qui fait que vous ne pouvez pas atteindre 100 millions, vous pouvez libérer une partie du crédit à confiance par exemple de 60 millions, vous êtes dans le bon, ce n'est pas illégal, et ainsi de suite. Donc il faut dissocier la notion de crédit budgétaire qui relève du plan d'engagement budgétaire. Merci. Et la notion de la trésorerie, c'est utile.
Merci.
Alors, je termine rapidement par...
Parlons rapidement.
Oui, là aussi, précision entre un flux et un stock. Les déficits des 24 premiers jours du mois d'avril, c'est un flux. Mais en stock, nous n'avons pas de déficit.
Merci, voilà. Professeur. Honorable Bamporiki, vous avez fustigé le fait que la présidence de la République, le gouvernement font des dépassements budgétaires. Devrait-on aller, par exemple, pour vous, jusqu'à la baisse des salaires des membres du gouvernement?
Non, je ne vais pas parler en ce terme-là. Et puis, ce qui amène au dépassement, ce n'est pas les salaires, parce que le budget des salaires, lui, est respecté partout. Mais c'est justement l'autre partie du budget, le fonctionnement plus particulièrement. Donc, on se rend compte qu'il y ait des services qui savent fonctionner au-delà de ce qu'on leur a donné comme autorisation, et d'autres qui ne savent même pas mobiliser 10% de ce qui était prévu en leur faveur. Donc c'est ça. Donc quand vous prenez les consommations budgétaires, vous vous rendez compte que systématiquement, à la présidence et à la primature, on est toujours au-delà de ce qui leur était autorisé.
Et là donc on retombe dans ce que souvent vous-même député dénoncez toujours, le problème du contrôle parlementaire qui fait défaut.
Absolument, absolument, je ne peux pas le nier, je suis même membre de la commission économico-financière et contrôle budgétaire, il y a une faiblesse de ce côté-là. Ça, je le reconnais.
Et comment est-ce que ça pourrait être résolu? Parce que jusque-là, ça demeure un véritable boulet au pied du Parlement.
Eh bien, il faut que ceux qui nous ont mandatés nous tirent les oreilles. Nous avons été mandatés par le peuple. Il faut qu'ils suivent ce que nous faisons.
Alors, honorable, si jamais vous devriez avoir un conseil à prodiguer au Premier ministre ce soir, là et maintenant, ce serait quoi? Par rapport à la gestion?
Je ne sais, il sait ce qu'il doit faire. Ce n'est pas à moi de lui apprendre.
Mais il ne le fait pas.
Voilà.
Et pourquoi, selon vous, trop de pression autour?
Je ne peux pas répondre à sa place.
Merci. Israël Moutala, le professeur est revenu sur certains éléments. Il a insisté que c'était une question de chiffres.
Je suis d'accord que ça pouvait s'être étalé sur deux exercices. On a vu par rapport au processus électoral aussi de 2011, le gouvernement avait dit que c'était étalé sur plusieurs exercices, mais la réalité est que le 80% du décaissement avait été fait en 2011 et qui avait perturbé le cadre macroéconomique. Donc nous allons retomber dans la même... C'est étalé sur peut-être deux exercices, mais vous allez voir le niveau de décaissement. Cette année sûrement, acculé par la pression politique, il y aura plus de décaissements qui vont faire qui vont déstabiliser le plan de trésorerie. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'on peut étaler sur deux exercices, mais la trésorerie va beaucoup souffrir en 2014 parce que le décaissement sera plus important. Mais pour revenir à la question du fonctionnement du gouvernement, bon, c'est vrai que d'abord, le Premier ministre, en vérité, il ne croit pas beaucoup en cette équipe gouvernementale qui, selon lui, a cassé l'élan de l'équipe qu'il avait précédée. Donc, c'est une question, c'est connu. Il sait très bien que la plupart des ministres qui sont dans ce gouvernement, pour lui, ne sont pas à leur place. Le Premier ministre le sait très bien. Il a vu lui-même la composition des cabinets, il a vu plusieurs réunions qu'il a eues avec les membres du gouvernement, les nouveaux membres du gouvernement et leurs conseillers, comment est-ce qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Et
il y a donc un problème d'homme aussi.
Il y a un problème d'homme, sérieusement, il y a un problème d'homme. Donc, il faut dire d'abord que certains ministères se plaignent de ce qu'ils n'ont pas assez de crédits suffisants. Parce que le frais de fonctionnement par cabinet, si je ne me trompe pas, je crois que c'est 15 000 dollars. Ça a été réduit il y a plus d'une année depuis que les anciens gouvernements étaient en mode d'expédition des affaires courantes. On avait ramené leur frais de fonctionnement de 30 000 à 15 000 et ce sont les 15 000 qui ont été maintenus.
En guise de conclusion, Israël.
Non, en guise de conclusion. Le Premier ministre devrait absolument nous dire que combien vont nous rapporter les mesures d'économie. C'est tout ce que nous demandons. Et avec ces économies, qu'il compte les affecter où? Voilà ce que nous demandons.
Honorable Bampouri, qu'y aurait-il un problème d'homme aussi pour vous, comme le dit Israël, au sein du gouvernement?
Plus un problème de système qu'un problème d'homme. Le système lui-même est vicié. Voilà.
Alors, en guise de conclusion, honorable, qu'est-ce qu'on retient pour vous?
Eh bien, c'est le système qu'il faut remettre en cause. Il faut remettre à la gestion classique. Il faut se remettre à la gestion classique de l'État. Et nous n'allons pas, nous, RDC, inventer la roue sur ce plan-là.
Merci, honorable. Professeur Vincent Ngonga, conclusion.
Oui, les préoccupations de mes collègues sont peut-être fondées, mais il faudrait relever d'abord qu'en dépit de tout ce qui a été dit, les résultats qui sont aujourd'hui récoltés par les gouvernements sont appréciés de partout. Je viens de Washington, je dis c'est pour la première fois que et la Banque mondiale, et le Fonds monétaire, et la BAD sont d'accord qu'en matière de croissance et stabilisation macroéconomique, des grands résultats ont été faits. Et même des efforts sont continués à être faits pour mitiger certains problèmes.
Et donc, en un mot, il faut garder espoir.
Il faut garder espoir.
Merci.
Nous avons pris ces mesures conservatoires tout justement pour préserver ces résultats et
Merci.
Les consolider davantage.
Merci professeur. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Kevin Kouteberilou Tchaka, Jean-Noël Mokondo qui m'ont aidé à préparer et à présenter cette émission sous la supervision de Ben Kabamba, à la présentation et à la coordination Alain Roumouchige. Merci de votre attention. Au revoir.